Merci, Catherine. Eh bien, c'est une très grande joie, et vous imaginez aussi avec une certaine émotion, puisqu'on a entendu de prêcher. On pourrait dire que c'est particulièrement difficile après les paroles entendues, où Mathias a mis la barre haut, mais c'est aussi une super joie d'être avec vous tous pour adresser un message, non pas à Mathias, bien sûr à Mathias aussi, mais à nous tous ce matin pour écouter la parole de Dieu et ce que j'ai eu à cœur de travailler, de préparer pour cette occasion particulière où, bien sûr, pour nous en tant que famille, c'est quelque chose de spécial, mais aussi pour chacun de vous qui êtes là, de retrouver des amis, tout un cheminement de vie. Et c'est vraiment une très, très grande joie de nous mettre ensemble maintenant à l'écoute de la parole de Dieu. Pour commencer ce message et cet enseignement de ce matin, j'ai choisi une petite image à vous projeter. Je vous laisse contempler quelques instants et méditer. C'est pour que tout honneur soit rendu à l'auteur de la photo et les droits d'auteur, John Wilhelm. Voilà, un photographe que j'aime beaucoup. Vous pouvez voir sur Internet qui fait plein de photos de ce genre-là, très, très interpellantes et très intéressantes. Donc, on peut laisser quelques instants cette image-là pendant que je vais commencer le thème de ma prédication. C'est « Qu'est-ce qui manque ?» encore à ta vie. Et là, je ne parle pas à des gens qui ne seraient pas chrétiens ou qui n'auraient pas la foi. Je parle à chacun d'entre nous, quelles que soient nos vies, qu'est-ce qui manque encore à ta vie? Et je pose bien cette question, ça serait notre dernier jour à vivre, notre dernier souffle, je dirais la même chose, non pas plantant un arbre, mais je dirais, qu'est-ce qui manque encore à ta vie? La carrosserie impeccable. Le tableau de bord, impeccable. Le rétroviseur, impeccable. Les roues tournent, tout fonctionne merveilleusement pour ce demi-camion. Qu'est-ce qui manque, malgré tout, encore à ta vie? J'entendais récemment un jeune coach que j'aime beaucoup, que j'écoute sur Internet, et qui parlait... Ça m'a beaucoup interpellé sur qu'est-ce qu'on peut changer dans nos vies et qu'est-ce qu'on ne peut pas changer. Et ce coach, qui est un coach de renommée maintenant mondiale et qui conseille plein de politiques, d'hommes d'affaires, de sportifs, dont je tairai le nom, pas faire de publicité pour cet homme, bien qu'on pourrait en faire, aucun problème, mais ce n'est pas mon propos, il disait qu'on se fatiguait, qu'on se tuait dans nos vies à essayer des choses, de changer les choses qu'on ne peut pas changer. Et on est frustré, on peut être amer, on peut être vraiment dans le cas dans la déprime parce qu'on se bat contre des choses pour lesquelles on ne peut rien faire. On met une énergie folle, mais comment changer son lieu de naissance, son patron, la couleur de sa peau, plein d'autres choses qui font mon histoire, mes blessures, mon parcours, et je peux me battre ma vie avec des années de relations d'aide, de psy, de pasteur, de prêtre, tout ce qu'on voulait, et finalement sur des choses qui sont là et que je dois faire avec. Il indiquait, puisqu'il était positif comme coach, il se doit de l'être, par contre, trois choses, et il disait trois uniques choses sur lesquelles on a prise finalement dans nos vies et qu'on peut changer. Et il mentionnait ces trois choses, et il nous invitait à concentrer toute notre énergie sur ces seules trois choses dans la vie, pour tout homme. Première chose, il disait, vous ne pouvez pas changer les choses qui vous arrivent dans un accident. Voilà, c'est fait. Mais vous pouvez changer le regard que vous avez sur ces choses qui vous arrivent. Ça, vous pouvez travailler. Comment vous allez regarder cette chose? Deuxième chose sur laquelle vous pouvez travailler, c'est décider de faire une petite et modeste et humble chose vis-à-vis de ce qui vous est arrivé. Un téléphone, un sourire, écrire une lettre pour demander pardon, appeler quelqu'un, écrire une lettre d'anniversaire. Modeste, petite chose, face à l'événement qui vous arrive, votre regard et une petite action. Et troisième et dernière chose, unique, d'après lui, qu'on peut faire dans nos vies, c'est décider dans ce moment-là, avec ce qu'on est, avec ce qui nous arrive, qu'on ne peut pas changer, investir toute notre énergie pour décider, choisir, prendre une décision sur l'orientation, le but vers lequel je veux pas à pas de façon persévérante, déterminée, tout orienté. Quelle est l'orientation? Quelle est la visée? Seulement trois choses. Mon regard sur ce qui m'arrive, faire une petite chose concrète et décider dans quelle direction je marche. Et il ajoutait cette petite chose, et pas demain, pas après-demain, pas quand j'aurai fini mes études, pas quand mon patron aura changé son caractère ou ma femme sera mieux, mais maintenant, dans l'instant présent, c'est trois choses que je peux faire et que je dois partir de mon psy, de mon voisin, de mon moral, de mon salaire ou de ma sortie du chômage. Ce matin, pour baser cet enseignement que j'aimerais vous partager sur la parole de Dieu, j'aimerais lire avec vous un texte. Texte que j'ai choisi pour le baptême de Matthias. C'était bien sûr, connaissant toutes les lectures et toute la réflexion que vous avez vue de Matthias, un choix important de savoir quel texte on allait partager ensemble qui pourra rester une référence pour le jour de sa décision d'entrer dans la vie du Christ, dans une discipline, dans un cheminement. Alors je me suis dit, quel texte prendre? Alors j'ai dit, bon, on va revenir aux sources, aux bases. Qu'est-ce qu'au fond Dieu a dit à l'humanité, non pas à la création du monde, mais quand il a commencé à structurer un peu son cheminement avec l'humanité? C'est-à-dire quand par Moïse, il a donné les 10 commandements. Les 10 commandements qui sont une référence encore universelle pour plein de sociétés, où on s'aperçoit que c'est en fait, si on veut résumer, pour faire un nouveau pays, une nouvelle culture, un nouvel, que ce soit au Groenland, que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit il y a 10 000 ans ou dans 10 000 ans, il y a un certain nombre de règles pour la vie en commun. Et Dieu, par Moïse, a donné ces 10 commandements, ces 10 paroles, on devrait d'ailleurs dire plus aux 10 promesses ou 10 paroles que 10 commandements, il a donné ses fondements. Et ce qui m'intéressait, on peut peut-être juste parcourir ces 10 commandements, voir si on a un petit peu 2-3 souvenirs de catéchisme. Là, si on arrive à les sortir les 10, on va voir ça. Mais surtout, ce n'est pas là-dessus que j'aimerais m'arrêter, c'est qu'est-ce qu'il a dit immédiatement après? Quel est le texte? En fait, il nous donne ces 10 commandements, il sait bien qu'on ne pourrait pas les accomplir. Hein. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus sur la croix, parce que c'est lui qui a payé, c'est lui qui a fait le boulot, et on a juste à, en confiance, lui dire, pardon, j'y arrive pas, mais toi, tu y arrives, donc c'est bon. C'est ça, la foi. Mais qu'est-ce qu'il nous a dit immédiatement après ces 10 commandements qu'il savait qu'on n'allait pas pouvoir accomplir, et que c'est lui qui allait payer le prix de tous nos péchés? Donc, juste avant que je lise ce texte, est-ce qu'on arrive à se rappeler comme ça les 10 commandements? Allez, qui c'est qui peut en citer un au moins? Tu aimeras ton Dieu, toute ta force, toute ton énergie, tout ce que tu peux. Ton prochain que toi-même, oui, le même. Voilà. Un autre. Pas d'adultère. Tueras point. Voleras pas. Honore ton père et ta mère. On a 5, c'est bien, j'ai à moitié rapidement. Les autres. Pas d'autre Dieu, pas d'idole. Pas de faux témoignage. Intéressant, hein, ça, on peut dire, c'est une petite annexe. Hein. Il dit comment. Pardon? Convoitera pas, exactement, merci. On est à combien? Je sais plus, j'ai plus compté. On les a tous vus ou il y en a encore un? Il en manque deux? Le jour du sabbat, merci. 9, c'est bien, on y est presque. Allez, un dixième. Ça a été dit. Oui, je crois qu'il y en a 2, effectivement. On pourrait dire qu'il y en a 9 parce qu'il y en a 2 qui sont liés entre d'honorer Dieu et de ne pas avoir d'image taillée. Ouais. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Alors. On va lire ensemble. Quelqu'un voulait dire quelque chose? Non. Pas de blasphème. Tu ne prendras pas le nom de ton Dieu en vain, oui? Oui. On arrive à 11, c'est bon. On est doués ce matin. Alors, on va lire, je vous invite, ceux qui ont une Bible, ou si on veut le projeter ou vous l'écoutez simplement, le texte qui suit. Je vous avais posé la question, je pense que peu, même de pasteurs de théologie, auraient pu citer comme ça. Quel est le texte qui suit juste ces 10 commandements? C'est intéressant. Comment Dieu va s'y prendre après avoir donné toute la loi? Ben maintenant, je vous leur dis quoi, hein? Premier texte qui suit ces 10 commandements. Donc, les 10 commandements sont dans Exode, donc la sortie du pays, chapitre 20. Et les 17 premiers versets, c'est ces 10 commandements. Et juste après, on va lire les versets 18 à 23 ou 25 de ce chapitre 20 d'Exode. Donc, ce même chapitre des 10 commandements. Je lis donc avec vous. Exode 20, à partir du verset 18. Tout le peuple entendit les coups de tonnerre, donc suite aux commandements qui sont donnés, et le son de la trompette. Ils voyaient des flammes et la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas. » Intéressant, hein, comme prédication d'un pasteur pour un baptême. « Que Dieu ne nous parle pas. » Moïse dit au peuple, « Ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Et c'est pour que vous ayez de la crainte devant les yeux et que vous ne péchiez point. » Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. » Donc voilà la parole que Dieu adresse à son peuple au moment où il lui donne la loi. Ils ont peur, il y a eu des tremblements, c'est impressionnant, hein, Dieu c'est pas notre petit pote. C'est comme celui qui fait les montagnes, qui fait toute la nature, et puis quand on voit la grandeur de la mer, de l'océan, des montagnes, des glaciers, c'est impressionnant, et puis la terre c'est une poussière dans l'univers, donc notre Dieu il est juste plus grand que tout ça, hein, donc c'est pas le petit pote d'à côté. Hein. Donc on a déjà peur quand il y a une tempête, et lui c'est juste le créateur d'une tempête, et bien au-delà de ça, donc c'est normal. Alors qu'est-ce qu'il leur dit? On a peur, bah, Dieu il s'affiche les jetons, puis il est grand, il nous dépasse. Eh bien il dit ceci, « Vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux. » Et là, il résume un seul des commandements. « Vous ne ferez point de Dieu d'argent, de Dieu d'or, donc pas d'idole. Hein, » Il va dire comment il faut célébrer son culte. Ben, « Pas d'idole. Vous ne vous en ferez point et tu élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras des sacrifices d'action de grâce. » Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Et si tu veux vraiment faire plus, tu élèveras alors un autel de pierre, mais tu ne bâtiras point un autel en pierre taillée. Qu'est-ce qu'il raconte Florian? Qu'est-ce qu'il amène ça sur des trucs un peu bizarres, etc. Dieu vient en dialogue avec son peuple pour nous rencontrer, pour nous parler de ce qu'il a dans le cœur pour le monde entier, de génération en génération. Et il lui dit trois choses. Il lui dit, ne me fais pas d'idole. Ne construis pas de culte, de statues, de machin, de choses, tout ça. Je ne suis pas comme les autres dieux, je n'en ai pas besoin. Moi, je veux une relation. Tu fais un petit machin, un petit hôtel, un petit lieu de terre, juste avec de la terre. Et dans tous ces lieux, tu veux me rencontrer, je viens et je te bénis. Résumé. Toute la loi et les prophètes, tout le cœur de Dieu pour sa créature, il est là. Tu fais un petit endroit, tu te donnes le temps, tu organises ton truc, c'est pas comme ça la sauvette. Tout simple avec la terre, là. Et chaque lieu, je viens, t'es là, je viens, et je te bénis. Et puis si tu veux vraiment faire plus, t'as le droit, on peut faire une cathédrale, j'ai rien contre les cathédrales, les beaux vitraux, les magnifiques choses, etc. Tu veux faire tout ça, c'est bien, fais pas trop de pierres taillées, ça veut dire sois simple. C'est ton cœur qui m'intéresse. C'est toi. Je te bénis. Et ce matin, c'est ce que Dieu nous dit. On simplifie les choses, les hommes compliquent beaucoup. On a besoin de revenir à une simplicité. Vous savez, tous les grands coachs, les grands psychologues aujourd'hui disent on a besoin d'être désencombrés, hein, Nicole. Désencombrer nos vies pour retrouver l'essentiel, la vie. Et si on veut désencombrer nos vies pour savoir pourquoi on est sur terre, qu'est-ce qui manque à ta vie? C'est cette rencontre avec Dieu tout simple qui te dit, tu fais un endroit juste avec la terre, même pas des pierres taillées, juste là, tu es là, toi et moi, et je te bénis. Dieu désire nous bénir. L'évangile en Dieu qui vient sur terre en Jésus, c'est juste un homme qui marche sur la terre, qui guérit, qui fait le bien, qui pardonne, qui reçoit des crachats, des coups, et qui pardonne et qui aime et qui nous dit, faites de même. Dieu veut nous bénir, Dieu veut notre joie. Matthias l'a dit, il nous veut pour une vie en abondance. Pendant, ça ne veut pas dire le chèque en banque plein, ça ne veut pas dire plus de problèmes et tout ça, rien du tout. Je veux dire, lui, dans nos difficultés, dans nos cancers, dans nos dépressions, dans nos chômages, il est là, il ne nous abandonne pas, il nous aide à vivre les choses et il veut nous bénir. Tout cet exemple est démontré par l'Évangile on voit que de Matthieu, premier évangile, jusqu'à l'Apocalypse, tout le Nouveau Testament, c'est ça. Il faut que je demeure chez toi, il dira à Zachée. Et il termine l'Apocalypse par « Si quelqu'un entend ma voix, je fais toc-toc. » Qu'il ouvre son cœur et je mangerai avec lui. Je le bénirai, je veux une relation. Tellement beau, tellement beau. Dans le premier projet d'invitation de Matthias, il nous a envoyé un mail. Il m'a demandé ce que j'en pensais, donc je ne sais pas si j'ai la même version que vous après qu'il a envoyé. Mais il avait mis deux citations originales que j'ai beaucoup aimées, que j'aimerais vous dire. Vous ne les avez peut-être pas toutes reçues, mais je les mentionne. C'est lui qui les a choisies. Première chose sur le baptême. Le baptême, c'est la goutte d'eau qui fait déborder la vie. Magnifique, non? J'espère que toutes vos vies peuvent déborder de cette relation avec Dieu qui veut nous bénir. Et deuxième citation, un peu plus compliquée, hein, c'est du Matthias, non, c'est du Paul Tournier, mais c'est Matthias qui le cite. Il y a, écoutez bien, elle est un petit peu longue, je vais vous la lire deux fois, mais elle est magnifique. Ça illustre vraiment ce message de ce matin d'une décision de rencontrer Dieu. Il y a dans la vie de tout homme une heure de Dieu où se joue pour lui, pour cet homme, souvent sur le terrain d'une toute petite obéissance concrète, ça rejoint le coach, hein, le débat intérieur en deux attitudes possibles où tout va dépendre. Paul Tournier est un médecin genevois qui est le premier qui a eu l'idée de la médecine de la personne. C'est-à-dire pas de soigner un cœur ou un rein, mais de soigner une personne. C'est le tout premier. C'est un chrétien engagé à Genève, il y a une centaine d'années, je ne sais plus quand exactement, à Genève. Donc, une heure de Dieu dans chaque vie où se joue deux attitudes possibles. Soit, dans ce débat intérieur, la résistance ou l'abandon. Tout se joue là. C'est parfois tout simple, comme donné par grâce. Parfois, c'est un combat héroïque et il y a là toute la qualité possible d'une vie nouvelle. Tellement beau. Une heure de Dieu, dans chacune de nos vies, plusieurs heures de Dieu, heureusement, où tout se joue dans la simple décision de résistance ou d'abandon. Vous entendez une parole, vous voyez un beau paysage, vous avez un bon repas avec des amis, tout le temps, à chaque minute, à chaque instant, vous pouvez résister ou vous ouvrir, vous abandonner. Tout se joue là. Ce matin, à cette parole de Dieu, est-ce qu'on va résister, se fermer, faire marcher tous nos raisonnements, nos systèmes immunitaires superdoués, antispirituels, en tout cas anti-vérité? Ou est-ce qu'on peut s'abandonner, dire « Seigneur, si c'est vrai, si tu es là, si tu crois, moi je veux. Si tu veux me rencontrer, si tu veux me bénir, ben vas-y, fais-le. » Pas de résistance. Billy Graham, qui était un pasteur baptiste, prophète dans les relations, il a été avant-gardiste dans la relation avec les Russes, il a conseillé plein de présidents américains, on dirait que c'est peut-être pas... Bon, stop. Il a travaillé avec plein d'hommes importants sur cette terre et il a lancé une revue. Il a eu des milliers de fois des stades remplis où il appelait les gens à se tourner vers Jésus-Christ et il a lancé une fois un journal. C'était très intéressant comment il allait appeler. Il a réfléchi comment je vais appeler ce journal. Je lance, il y a déjà toute la presse américaine, toute la presse mondiale. Il connaît les présidents, il connaît les hommes d'affaires, il conseille des gens et il veut lancer son propre journal. Quel nom lui donner? Vous savez, vous vous rappelez, c'est un peu vieux les années 60. Décision. C'est tout Billy Graham, mais c'est aussi tout Jésus-Christ, c'est aussi tout le coach, c'est tout ce que je vous dis ce matin. Une décision du moment présent, aujourd'hui, maintenant. Qu'est-ce que je décide pour ma vie? Nous sommes invités ce matin, j'arrive doucement à ma conclusion, avec Matthias aussi ce matin, c'est une occasion de grâce pour prendre une décision. Pas forcément la décision de sa vie qui va tout révolutionner, de passer d'être chrétien à pas chrétien, ou de passer de prendre une nouvelle orientation de votre vie, déménager, etc., etc. Mais peut-être une décision toute simple, toute petite, aujourd'hui où j'en suis, de réfléchir devant Dieu, qu'est-ce qui manque à ma vie? Qu'est-ce qui va pas? Est-ce que j'ai de l'amertume? Qu'est-ce que je peux décider par rapport à ça? Est-ce que j'ai un manque de pardon? Est-ce que j'ai une absence de foi, de sens à ma vie? Qu'est-ce que je peux décider par rapport à ça? Alors pourquoi Matthias a-t-il pris cette décision? Quelle nécessité au fond? Je reviens à mon image, on peut la rafficher. On va mettre Matthias Mathias, la carrosserie était belle. Hein? Plusieurs l'ont dit, en tout cas. La direction était bonne. Le travail, les amis, ça fonctionnait. Ça fonctionne. Hein? Alors, il manquait quoi? Alors, est-ce qu'il manquait ces fameuses roues arrière? Bien sûr, vous l'avez compris. Est-ce que c'était, au fond, comme certains croient, le baptême, le salut? Mais non! Baptême, ce matin, aujourd'hui, il n'est pas baptisé, hein, Mathias? S'il meurt maintenant. Il ne va pas au ciel parce qu'il n'est pas baptisé? N'importe quoi, merci! Il manquait quoi? Ah! Il manquait son engagement dans l'église. Ah! Maintenant, on va pouvoir le faire bosser. Avant, on ne pouvait pas trop. C'est ça?
Non.
Oh! Zut! Mais alors, qu'est-ce qui manquait à la vie de Mathias? Pourquoi ça? Ah, peut-être qu'on aurait dû le baptiser ensemble. Comme ça, ça serait fait. On lui a compliqué la vie de choisir. Non, tout y était, la peinture éclatante, les roues, le cheminement, etc. Mais il veut simplement prendre la petite décision, qui n'est pas une question de salut, qui n'est pas une question de vie ou de mort, de témoigner publiquement avec vous, devant les puissances spirituelles qui nous observent, bonnes et mauvaises, qu'il choisit Jésus-Christ. Quelle décision vous allez prendre, vous ? Aujourd'hui. Et je termine simplement par cette citation de Jean d'Ormesson. Vous connaissez Jean d'Ormesson, un grand maître à penser français, dans son livre Le rapport Gabriel, un livre super intéressant où Dieu envoie l'ange Gabriel au 21e siècle pour visiter la France et puis se demander si finalement il faut continuer avec cette bande de Lulu ou s'il faut les supprimer. Donc Dieu envoie l'ange Gabriel visiter la France et se demander s'il faut continuer. Est-ce qu'il a réussi, est-ce qu'il a échoué au fond? Et Dieu se pose vraiment la question s'il n'a pas échoué avec les hommes. Et l'ange et Jean d'Ormesson, en fin de livre, nous disent ceci qui est fondamental. Sous la question au fond que vous vous posez, que nous nous posons sans cesse, que va devenir le monde? Et puis j'ajoute... la critique de la gauche, la critique de la droite, la critique de l'Église, la critique de mes collègues anciens, tout ce qu'on sait tellement faire, nous, hein, la critique du prof, la critique de notre conjoint, etc., etc. Tout ça, c'est qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, sous cette question, la seule vraie question que Dieu pose n'est pas que tu t'inquiètes de que va devenir le monde, mais qu'as-tu fait de ta vie, toi? Arrête un peu de regarder à gauche et à droite. Arrête de critiquer les décisions des autres. Mais qu'as-tu fait, toi, de ta vie? Pour mettre la musique. Et je trouve tellement beau cette interpellation à la fin de son gros pavé de, je ne sais plus, 400 ou 500 pages de Jean d'Ormesson, au fond, qui contemple la France, qui nous contemple et qui pense que Dieu pose cette question. Qu'as-tu fait de ta vie? Quel regard as-tu sur ta vie? Quelle décision prends-tu, toute petite, toute simple, aujourd'hui, pas demain? Et dans quelle direction veux-tu aller? Amen. On va prier. Seigneur, merci beaucoup pour ta parole qui nous montre qu'au fond, le culte que nous avons à te rendre, que ce que tu veux pour l'humanité que tu as créée, c'est simplement, viens avec moi, rencontre-moi, je veux te bénir. Seigneur, que notre décision, que notre cœur soit d'avancer plus à fond, plus avant dans cette relation de bénédiction avec toi et en toi. Viens, Saint-Esprit, touche nos vies, touche nos doutes, touche nos questions, touche nos choix, pour que nous puissions faire de notre vie une réussite avec toi. Amen.